Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec la Seconde Guerre mondiale entre déni et silenciation, épisode 11. Bergen-Belsen, une scène de crime, une exposition itinérante sur les responsables et coupables présentée par Jeannine Dery, historienne. Voilà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Tout d'abord.
Avec plaisir, merci. Je suis historienne. Et je travaille au mémorial de Bergen-Belsen, dans des projets du mémorial de Bergen-Belsen. Et c'est en 2024 qu'on a inauguré une exposition sur Bergen-Belsen en tant que lieu du crime. C'est-à-dire, à Bergen-Belsen, il y avait plusieurs camps. Et on s'est penché sur les crimes et sur les bourreaux de Bergen-Belsen. En effet, en Allemagne, on ne parle pas vraiment de bourreaux, on parle de responsables et coupables, et on a le mot « Täter » pour cela. Donc, en France, on dit « bourreau » pour exprimer cela.
Comment s'organise cette... Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'organise cette exposition? Qu'est-ce qu'il y a à voir pour essayer justement de comprendre à la fois cette responsabilité, cette culpabilité?
Tout d'abord, il faudrait ajouter qu'il s'agit d'une exposition itinérante qui a été montrée à Bergen-Belsen, mais qui est aussi itinérante. Donc, elle est censée représenter Bergen-Belsen hors de Bergen-Belsen. Et Bergen-Belsen était un camp de prisonniers de guerre soviétiques et un camp de concentration. Le but de cette exposition, c'était de se pencher sur les coupables et les responsables des crimes à Bergen-Belsen, parce que dans l'exposition permanente du mémorial de Bergen-Belsen, l'exposition actuelle qui date de 2007, il est peu question des coupables et responsables. C'est-à-dire, on en parle, mais la perspective dominante est celle des victimes. Et c'était tout à fait important et bien lorsqu'on a inauguré cette exposition en 2007, parce que la perspective des prisonniers de guerre et des détenus du camp de concentration avait été en quelque sorte négligée jusque-là. Et donc, dans cette exposition permanente, il y a beaucoup d'entretiens audiovisuels avec les rescapés. Il y a beaucoup de sources qui représentent la perspective des victimes. C'est aussi parce que les responsables et coupables ont brûlé les documents qui se trouvaient dans le camp même, c'est-à-dire les listes des détenus, les listes d'arrivée, les listes de départ, le registre du camp, tout cela. Et donc, le mémorial de Bergen-Belsen a fait énormément de recherches pour retrouver des doubles de listes et toute la documentation sur Bergen-Belsen, mais elle reste lacunaire. Et c'est alors que la perspective des victimes pour se faire une idée de ce qui s'est passé dans le camp est d'autant plus importante. Mais en revenant à l'exposition lieu de crime, un lieu de crime de Belsen, on a parlé justement des coupables et responsables et on a choisi une approche particulière en parlant de leur motivation. On s'est posé la question pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu plus de 70 000 morts à Bergen-Belsen, 20 000 du camp de prisonniers de guerre soviétique et 50 000 du camp de concentration? Et on a dit, voilà, il y a eu un camp de prisonniers de guerre soviétique et un camp de concentration à Bergen-Belsen. Et même après la libération, encore 14 000 détenus du camp de concentration sont morts des suites de leur déportation et de leur captivité. Puis après, on a misé sur les institutions, les coupables et responsables individuels et la population. Donc, on a choisi trois approches pour essayer de comprendre le pourquoi des morts de Bergen-Belsen, et non seulement des morts, mais aussi de tout ce qu'on a fait aux victimes dans cet endroit.
Oui, qui n'était
Est-ce que
pas
tu peux
normalement un
nous
camp
en
de la
parler?
mort.
Voilà, Bergen-Belsen, c'était un camp de prisonniers de guerre et un camp de concentration, mais ce n'était pas un camp de la mort, ce n'était pas un centre d'extermination, mais un camp de concentration qui a été créé dans un but très particulier, c'était de échanger des otages contre des Allemands, des ressortissants allemands qui se trouvaient à l'étranger ennemi, ou contre une rançon, ou bien de les libérer parce qu'ils étaient des citoyens de pays neutres. Et à Bergen-Belsen, il s'agissait uniquement d'otages juifs. C'est-à-dire que des déportés juifs qui se trouvaient déjà en captivité, qui avaient déjà été arrêtés dans le pays d'origine, au lieu d'être déportés à Auschwitz ou dans d'autres centres d'extermination, les nazis ont fait une exception et les ont gardés comme otages, mais seulement dans le but de les échanger éventuellement. Et au cas où ils pensaient qu'ils n'allaient plus pouvoir les échanger, ils les ont déportés à Auschwitz tout de même. Donc, il y a eu des déportés qui sont arrivés à Bergen-Belsen comme otages, mais qui n'ont pas gardé le statut d'otage, qui ont été déportés à Auschwitz ensuite. C'est-à-dire que à Bergen-Belsen, il y avait une exception de la Shoah, c'est-à-dire que les nazis avaient des marges de manœuvre, ou bien qu'ils étaient très pragmatiques concernant l'anéantissement des Juifs de l'Europe. Bon, le but de tuer tous les Juifs de l'Europe, c'était leur but principal, mais ils ont fait une exception dans ce cas où ils pouvaient éventuellement échanger des otages contre des ressortissants allemands qui se trouvaient à l'étranger, ou bien contre une rançon.
C'est extrêmement complexe parce qu'en fait, la plupart des gens connaissent le camp de Bergen-Belsen comme un camp de concentration, mais surtout comme l'arrivée des marches de la mort et pas comme étant le camp de l'échange. Est-ce que tu as une explication, par exemple, simple ou pas simple, en disant, ben non, c'est très compliqué en fait à expliquer sur pourquoi ça a été le camp de l'aboutissement des marches de la mort?
Oui, en effet, Bergen-Belsen est vu comme le camp de l'aboutissement des marches de la mort parce que les libérateurs britanniques ont fait énormément de photos et ont même tourné des films de ce qu'ils ont trouvé. Et ils ont trouvé des milliers, des dizaines de milliers même de corps, de cadavres humains qui se trouvaient sur le sol, dans les baraques, dans des fosses communes encore ouvertes. Ils ont trouvé aussi des rescapés et ils les ont pris en photo. Ils ont médiatisé ces photos. Donc, ces photos et les films également, ils ont fait le tour du monde. Et c'est pour cela qu'on a de Bergen-Belsen l'image d'un camp de la mort, de l'horreur de la découverte des Britanniques. En effet, là aussi, c'est parce que l'ASS et les nazis généralement n'ont pas voulu laisser libérer les prisonniers des camps de concentration, les détenus des camps de concentration. C'est pour cela qu'il y a eu les marches de la mort, en commençant par les camps à l'est de l'Europe. C'est pour cela que déjà en décembre 1944, l'évacuation du camp d'extermination d'Auschwitz commence. Et là aussi, ce sont des Juives et des Juifs qui arrivent d'Auschwitz et qui sont amenés à Bergen-Belsen, déjà parce que Auschwitz, en tant que camp d'extermination, ne fonctionne plus, mais aussi parce que les nazis veulent user leur main-d'œuvre. C'est-à-dire, c'est dans le but de les transférer dans l'industrie d'armement allemande.
Okay.
Et cela commence déjà à l'automne 1944, en effet. Et donc, il y a à Bergen-Belsen, c'est un camp de concentration qui est aménagé seulement en 1943, dans le but de cet échange d'otages juifs.
Est-ce qu'ils travaillent à Bergen-Belsen aussi? Est-ce qu'il s'agit de rentabiliser aussi?
Il ne s'agit pas de les rentabiliser, mais puisque Bergen-Belsen fait partie du système concentrationnaire, et puisque dans le système concentrationnaire, les nazis mettent à travailler les détenus, ils vont également mettre à travailler les détenus d'échange, mais dans une mesure qu'ils ne meurent pas.
D'accord.
Tout de même, il y en a eu qui sont morts à Bergen-Belsen parce qu'ils étaient obligés de travailler, parce que les conditions, même dans le camp de l'échange, n'étaient pas bonnes et ont dégradé au fil du temps.
Oui, c'est ça. C'est le temps qui a fait que les gens sont morts.
Donc, pour en revenir au bourreau, il y a, je peux faire des exemples. Ça t'intéresse?
Oui.
Donc, on va peut-être parler aussi des prisonniers de guerre. Donc, concernant les prisonniers de guerre, soviétiques, la Wehrmacht, ce sont les forces armées allemandes, n'a pas respecté la Convention de Genève, bien que l'Allemagne nazie avait, en 1934, signé la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. Et les prisonniers de guerre soviétiques, en grande partie, sont restés dans les territoires occupés à l'Est, mais une partie a été transférée dans le Reich dès 1941, dès l'été et l'automne 1941. Mais il n'y avait pas de camp bien préparés pour eux. Il y avait des camps spéciaux pour les prisonniers de guerre soviétiques dans lesquels il manquait de tout. Et Bergen-Belsen était un camp comme ça. Il y avait des miradors, il y avait des barblés, il y avait très peu de baraques. Et les prisonniers de guerre soviétiques ont été mal nourris. Il n'y avait pas d'hébergement propre, il n'y avait même pas de vraie latrine ou quoi que ce soit. C'est-à-dire conditions sanitaires extrêmement précaires, faim, soif, chaleur, froid. Et sous ces conditions, au cours de l'hiver 1941-1942, il y a eu 14 000 morts parmi les prisonniers de guerre soviétiques, de faim, de soif, de froid, de chaleur, de maladies contagieuses. Il y a eu une épidémie de typhus exanthématique. Ça, c'est la première hécatombe de Bergen-Belsen.
Oui, et ce sont des prisonniers de guerre.
Trach, Bergen-Belsen, et ce sont des prisons militaires soviétiques. C'est la première hécatombe. Et la deuxième hécatombe de Bergen-Belsen, c'est à la fin.
Oui.
C'est à partir du mois de février 1945 et jusqu'en avril 1945. Et entre-temps, Bergen-Belsen sert de camp pour la redistribution de main-d'œuvre captive, d'abord les prisonniers de guerre soviétiques, puis après les détenus de camps de concentration, et aussi de camps de malades, prisonniers de guerre soviétiques, malades, et de camps, comment dire, pour laisser mourir.
Mais
C'est là que les forces armées allemandes et aussi la SS laissent mourir des prisonniers de guerre et des déportés malades. Par exemple, dans le camp de concentration arrive un convoi de déportés malades de Dora, 1000 hommes, parmi lesquels beaucoup de Français. Et sur ces 1000 hommes, deux tiers meurent dans quelques mois.
Ouais.
Parce qu'ils sont malades, épuisés et parce qu'ils ne reçoivent pas de soins à Bergen-Belsen. C'est un camp de malades sans qu'il y ait un traitement
C'est
contre les
ça.
maladies. Et ça, c'est un parallèle entre le camp de prisonniers de guerre et le camp de concentration. Donc nous avons ce côté-là de Bergen-Belsen et les deux hécatombes, et nous avons le camp de l'échange. Et le camp de l'échange, c'est une autre histoire. C'est l'exception pragmatique que font les nazis de l'extermination des juifs de l'Europe. Mais c'est seulement... ils sont en suspens, si on peut dire comme ça.
Oui.
Parce que cette exemption, elle n'est pas définitive. Quelqu'un peut être déporté à Bergen-Belsen comme un otage juif et sélectionné à Bergen-Belsen pour être déporté à Auschwitz. Ça dépend de la volonté des responsables et coupables. Et parmi ces responsables et coupables, on trouve Heinrich Himmler, qui négocie avec Hitler comment dire, la création du camp de concentration de Bergen-Belsen pour justement y rassembler des otages juifs. Puis après, c'est aussi le Auswärtige Amt, c'est-à-dire les affaires étrangères allemandes, parce que ce sont les affaires étrangères qui gère l'échange de prisonniers de guerre ou bien de détenus civils entre l'Allemagne et par exemple la Grande-Bretagne. Donc, ce sont les affaires étrangères allemandes qui sont impliquées dans la création de Bergen-Belsen et aussi dans la gestion des négociations ou bien dans les négociations d'échange. Puis après, il y a la SS, l'Office central de l'économie.
Mais ce que tu veux dire,
Et
c'est que c'est très très organisé et que ces institutions, enfin, c'est pas irréfléchi, c'est pas un impensé, tout ça est très organisé et il y a plusieurs institutions de l'État nazi qui y participent, quoi.
oui, justement, et ce qui est extraordinaire, c'est que les affaires étrangères y participent également. Donc, plus concrètement, sur les bourreaux. Au début du camp de concentration, en 1943, on trouve par exemple Siegfried Seidel. Et Siegfried Seidel, c'est un SS, c'est un proche de Eichmann. Il s'occupe de la sécurité à l'intérieur du camp de Bergen-Belsen avant de venir à Bergen-Belsen et de s'occuper de ce département de la sécurité à Bergen-Belsen. Il a été le commandant du ghetto de Theresienstadt. Et en tant que commandant du ghetto de Theresienstadt, Il a participé à l'organisation des convois vers les camps d'extermination. Et aussi, avant d'être le commandant du ghetto de Theresienstadt, et après avoir été le responsable du département de la sécurité à Bergen-Belsen, il part encore à la chasse aux Juifs, entre autres, il part à l'Est. Et c'est parce qu'il est un proche d'Eichmann.
Oui.
Donc c'est un grand responsable et coupable. Et concernant ce Siegfried Seidel, il faut dire qu'il a été jugé après la guerre, mais pas parce qu'il a sélectionné les Juifs d'échange qui ont été déportés à Auschwitz et assassinés à Auschwitz, à Bergen-Belsen, mais pour d'autres faits. Pour avoir été le commandant du ghetto de Theresienstadt et aussi pour d'autres meurtres qu'il a commis ou auxquels il a participé. Et concernant Bergen-Belsen, il prétend que Bergen-Belsen, c'était un camp d'échange et pas plus, et il se vante même d'avoir accompagné un convoi de juifs grecs, mais ressortissants espagnols, jusqu'en Espagne. Il est vrai, ces juifs de Salonique ont été échangés, ou bien pas échangés, mais ils ont été libérés et ils ont pu partir en Espagne parce qu'ils étaient ressortissants d'un pays neutre. Mais c'est ce qu'il met en avant pour couvrir justement, ou pour cacher justement, camoufler justement. Donc c'est ce qu'il met en avant pour camoufler les autres faits.
Oui, c'est ça. Et en fait, ce que tu
Voilà.
dis, c'est que son CV, hein, on peut vraiment dire ça, montre à quel point en fait il était engagé dans l'extermination des Juifs d'Europe, tout simplement, et
Oui.
que voilà, c'était qu'il a vraiment choisi et que c'est pas qu'il a pas essayé de sauver qui que ce soit, plutôt l'inverse.
Plutôt l'inverse, justement. Et c'est quelqu'un qui vraiment fait carrière. C'est un Autrichien proche d'Eichmann, je viens de lire. Et ce qu'on montre dans l'exposition itinérante, c'est entre autres une carte postale qu'il adresse à sa femme, son épouse, qui est restée à Vienne. Ils viennent de Theresienstadt. Elle s'installe à Vienne avec les enfants. Et lui, il adresse une carte postale à sa femme qui montre la ville de Celle. Celle, c'est une jolie ville, maison en colombage, etc. Donc ça, c'est l'image devant. Et derrière, il écrit Cher Liesel. Il écrit ça le 6 juillet 1943. Nous sommes dans la lande de Lunebourg. Les frères Seidel, donc il rencontre son frère à Celle. On s'est promené dans Celle, c'est une jolie ville. Nous nous trouvons dans un restaurant ou bien. C'est la cave de la mairie, en effet. La cave de l'hôtel de ville, Ratzeburg. La cave du conseil municipal, en quelque sorte, on pourrait dire. Donc, ils sont là à Celle, ils attendent qu'on leur apporte une bière afin qu'ils la boivent à la santé et au salut de son épouse et de tous les proches, tous les chers. Et à midi, on continue à Bergen. On continue pour Bergen,
Oui.
c'est-à-dire qu'il va à Bergen, qu'il va prendre son poste en tant que chef du département de la sécurité de Bergen-Belsen, au camp de concentration de Bergen-Belsen. Et Il écrit cette postale, pour lui, c'est normal qu'il écrive une postale à son épouse avant de
De
se
prendre
mettre
ses
au service.
fonctions.
Avant de, oui, justement, avant de prendre ses fonctions, c'est la bonne expression, voilà. Donc, avant de prendre ses fonctions, même il rencontre encore son frère.
Et il fait ça en fait. Il est content.
Ça, en quelque sorte, oui, il est content. Il est arrivé dans la lande de Lunebourg. On ne sait pas s'il fait beau ou pas, mais voilà. Et il écrit Herzlich, c'est-à-dire très cordialement.
Oui.
Le plus cordialement possible.
Il est très heureux, quoi.
Oui, voilà. Il est content, au moins. S'il est très heureux, on ne le sait pas. Mais c'est normal, quoi. C'est normal de travailler dans un camp de concentration. C'est normal de se déplacer comme ça, non seulement en Allemagne, mais partout en Europe. Pour lui, c'est voilà. C'est sa profession à lui.
C'est ça.
Voilà, c'est l'un qu'on présente. L'autre qu'on présente, c'est Eberhard von Tadden. C'est un diplomate allemand. Il est juriste. Il travaille aux affaires étrangères et il travaille également avec Adolf Eichmann, bien que Adolf Eichmann fait partie de la sécurité. Donc, lui, il est dans une autre institution. Mais c'est lui qui s'occupe également des affaires juives, comme on disait à l'époque. C'est lui qui va visiter le camp de concentration de Bergen-Belsen au mois d'août 1943 et qui, dans un rapport, va constater que ce camp, normalement, ce camp n'est pas admissible pour accueillir des otages qu'on veut changer. Les conditions sont trop mauvaises et il faudrait y pallier. Mais en disant cela, il ne pense pas aux otages, il pense à leur valeur
Ah oui.
pour pouvoir les échanger. Il ne s'agit pas d'être particulièrement humain ou de se soucier du bien-être ou de la santé de ces otages. C'est purement fonctionnel.
Oui, c'est ça.
C'est que, voilà.
Il craint qu'il ne
Et,
soit plus échangeable, en fait.
oui, voilà. Donc, ce sont les affaires étrangères qui tiennent à ce que ces échanges contre des ressortissants allemands puissent avoir lieu. Et dans ce but, il faut maintenir les otages en bon état. Pour en revenir à Eberhard von Tadden, c'est quelqu'un qui était très ambitieux et qui avait une très bonne formation de juriste, qui venait d'une famille conservatrice et qui déjà, quand il était encore jeune, s'était engagé contre la République et contre les Juifs, ou bien qui avait une attitude plutôt contre, non, qui était, qui avait une attitude contre la République et contre les Juifs. Donc, il était un national-socialiste convaincu, et d'où son comportement et ses actes. Et lui, il a fait carrière pendant le national-socialisme et il a pu reprendre sa carrière après le national-socialisme, sa carrière de diplomate.
OK.
Il
Tranquillement.
s'est converti, oui, pas tout à fait tranquillement parce qu'il y a eu des enquêtes à son égard. Mais surtout des enquêtes qui ont concerné des gens de son entourage. Mais de temps à autre, lui aussi, il a été appelé en tant que témoin ou bien en tant que, comment dire,
Témoin assisté, c'est ça,
suspect. Oui,
quand en fait ils sont
témoin
entre
suspect.
eux deux, ça s'appelle témoin assisté.
J'ai En commençant à parler,
Oui.
j'ai brièvement évoqué les institutions dont on parle et les responsables et coupables individuels dont on parle, mais aussi la population. Et quand on parle de la population, on parle par exemple d'entreprises qui ont
Qui ont employé,
embauché,
ouais.
employé des prisonniers de guerre soviétiques qui étaient déjà malades et trop faibles pour travailler et qui ont reçu trop peu de nourriture et qui, au lieu, qui se sont plaints
De l'état
que
de
ces prisonniers qui se sont plaints de l'État, des prisonniers de guerre, et qui ont dit, mais on a besoin d'autres, faut que vous les remplacez. Et donc, c'est l'Agence pour l'emploi qui envoie des prisonniers de guerre soviétiques dans les entreprises et qui reçoit aussi les plaintes des entreprises comme quoi ces prisonniers de guerre ne peuvent pas servir de main-d'œuvre parce qu'ils sont trop faibles, parce qu'ils en meurent énormément. Et les entreprises demandent de les renvoyer à Bergen-Belsen, par exemple, pour en recevoir d'autres. Et ça se passe pendant l'hiver 1941-1942. Je pourrais continuer à en parler des heures et des heures, mais ça,
Oui.
c'est un exemple concernant les prisonniers de guerre. Et aussi, parmi les prisonniers de guerre, il y a des sélections par les forces armées allemandes et la sécurité du Reich, la Gestapo dans ce cas. Dans les camps de prisonniers de guerre soviétiques, ils se mettent à chercher des prisonniers politiquement suspects,
Pour les
résistants
exterminer.
éventuels, fonctionnaires fonctionnaires communistes, pour les transférer dans les camps de dans un camp de concentration dans lequel ils seront assassinés. Donc, j'ai encore peu parlé des motivations des coupables et responsables. Mais ça, c'est un peu difficile à expliquer aussi quand on est au téléphone et qu'on ne peut pas montrer l'exposition telle qu'elle est. Pour faire des suggestions, pourquoi les coupables et responsables ont agi de cette façon, pour ce qu'ils ont fait, on a proposé des termes ou bien des expressions. Par exemple, on a proposé l'indifférence quand il s'agit des entreprises allemandes. Ou bien on a proposé le carriérisme quand il s'agit de Eberhard von Fadden, ce diplomate. On a proposé l'antislavisme ou l'antibolchevisme quand il s'agit des soldats allemands qui avaient la fonction de garde de gardien dans un camp de prisonniers de guerre où il y avait des prisonniers de guerre soviétiques. On a également proposé l'anticommunisme. On a donné la raison de racisme. Mais on a aussi des choses comme exercer du pouvoir, les ordres qui sont donnés, ou
L'obéissance, tu veux
bien
dire? L'obéissance aux
l'obé
ordres?
Et voilà, l'obéissance aux ordres, voilà. C'est le trafic des êtres humains,
Ouais.
je crois. Ouais. Oui, et en effet, ce qu'ils font avec les otages d'échange, ou bien les otages juifs dans le camp de l'échange, le trafic des êtres humains, c'est leur but. On a aussi donné d'autres raisons comme la brutalité, les privilèges aussi, l'exploitation aussi. Donc, ou bien se procurer de main-d'œuvre pour les entreprises allemandes. maintenir l'économie de guerre, des choses comme ça. Donc, on a proposé différents motifs en mettant ces termes ou bien ces expressions dans trois couleurs, les trois couleurs différentes pour les coupables et responsables, les institutions et la population. Voilà, donc on présente des institutions, la population et les coupables et responsables individuels, mais on n'en reste pas là. On donne aussi la voix aux victimes, parce que c'est très important de, je ne vais pas dire équilibrer, parce qu'on se penche notamment sur les responsables et coupables, mais on ajoute aussi quelque part la perspective des victimes. Donc, quand il s'agit des prisonniers de guerre qui arrivent à Bergen-Belsen, et quand on cite les lettres des soldats allemands qui écrivent à leur famille, c'est-à-dire que partout en Allemagne, ça savait ce qui se passait à Bergen-Belsen, et qu'il y avait la brutalité envers les prisonniers de guerre soviétiques, et qu'il y avait plein de morts et tout ça. Là, on cite les lettres, mais on met aussi une citation d'un prisonnier de guerre soviétique qui a dû participer à l'enterrement de ses camarades morts et qui avait juste 18 ans et qui, à ce moment-là, se retrouve à Bergen-Belsen. C'est un rescapé. Les citations viennent d'un entretien audiovisuel avec lui. Et il raconte sa peur au début de toucher les corps et de les mettre
En terre.
dans un... Non. D'abord dans une charrette.
D'accord.
Une charrette, puis après, il fallait pousser la charrette et tirer la charrette pour arriver dans le cimetière des prisonniers de guerre. Et là, ils ont fait basculer les corps dans
Dans
des
des
charniers,
fosses.
dans des fosses, dans des grandes fosses. Et ça, c'était sa tâche. Il faisait partie du commando d'enterrement. Et on a des photos de ça, parce qu'il a vu des soldats allemands qui ont pris sa photo. Et il figure même, ben même ce sont même des soldats allemands qui, à côté des prisonniers de guerre soviétiques, qui gardent les prisonniers de guerre soviétiques et qui sont dans la photo. Il n'y a pas seulement les lettres, il y a aussi les photos qui circulent à l'intérieur du camp de Bergen-Belsen, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que la population allemande, elle était au courant. Peut-être pas tout le monde, mais ça se savait.
Je te remercie beaucoup. Je ne m'attendais pas à autant de choses passionnantes et intéressantes. Voilà, je te remercie vraiment beaucoup pour tout ce que tu as expliqué, raconté sur cette exposition itinérante. Et c'est passionnant. Voilà, je te remercie beaucoup. Et c'est très éclairant.
C'est moi.
Merci Janine Dery pour cette rencontre. C'était l'épisode 11, Bergen-Belsen, une scène de crime, une exposition itinérante sur les responsables et coupables.